Vous écoutez On lit pour vous.
Qu'est-ce qu'on attend pour se parler? Un texte d'Alexandre Sirois paru le 20 novembre 2024 dans la presse. On aurait tort de croire que la polarisation, qui atteint un niveau inquiétant chez nos voisins du Sud, est un problème typiquement américain. Et on aurait tort de penser qu'il ne faut pas, ici aussi, s'en préoccuper et chercher des façons de l'atténuer. Car le Québec n'est pas épargné, et le Canada encore moins. Le niveau de polarisation affective au Québec n'atteint pas les niveaux qu'on observe présentement aux États-Unis, mais la polarisation et les émotions jouent un rôle plus grand aujourd'hui qu'il y a quelques années, explique Mathieu Lavigne, chercheur postdoctoral au Dartmouth College au New Hampshire. J'ai interviewé ce chercheur parce qu'il vient de publier un bref essai intitulé « Comprendre nos différences pour apaiser nos différends ». Ce texte se trouve dans la plus récente édition de « L'État du Québec 2025 », ouvrage que l'Institut du Nouveau Monde fait paraître chaque année et qui se veut en quelque sorte une radiographie de la société québécoise. La polarisation est un des thèmes centraux de ce livre, où l'on pose cette année la question « Sommes-nous une société émotive ?» Mathieu Lavigne confirme qu'il faut bel et bien s'inquiéter, ici aussi, de la montée de la polarisation affective. Elle peut avoir des conséquences importantes sur les débats politiques, sur notre capacité à trouver des compromis et à mettre en place des politiques transpartisanes qui vont plaire à l'ensemble de la population, précise-t-il en entrevue. Il y a également un lien entre l'augmentation de la polarisation et les manifestations d'agressivité à l'égard des politiciens qui se multiplient partout en Amérique du Nord. Prenons quelques secondes pour définir ce qu'on entend par polarisation affective. C'est le phénomène selon lequel on va éprouver des sentiments positifs pour ceux qui s'identifient au même groupe que nous et qui partagent les mêmes opinions politiques, explique Mathieu Lavigne. À l'inverse, ça implique qu'on développera des sentiments négatifs à l'égard de ceux qui ne font pas partie de notre groupe et avec qui nos opinions diffèrent. Nous sommes d'autant moins à l'abri de ce phénomène que le contexte américain a un certain impact au Canada, rapporte l'expert. La frontière ne nous protège pas des discours polarisants. L'impact se ressent tant sur la manière dont on réfléchit aux enjeux politiques que sur le type d'argument ou de discours qu'on utilise. Il y a dans l'État du Québec certaines données intéressantes à ce sujet tirées d'un sondage effectué par la firme Crop. Par exemple, au cours des 12 derniers mois, 6 Québécois sur 10, 62%, ont parfois ou souvent éviter certains sujets de discussion avec un proche ou un collègue pour s'épargner une situation difficile ou conflictuelle. Il faut aussi savoir que la polarisation des citoyens peut s'expliquer en grande partie par la polarisation affective au niveau des élites, précise Mathieu Lavigne. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. En premier lieu, ce sont les politiciens qui sont devenus plus partisans et se sont polarisés davantage. Or, cette tendance s'observe aussi, quoique dans une moindre mesure, au Canada. Il y a une plus grande différence, par exemple, entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, fait remarquer le chercheur. Enfin, n'oublions pas que la transformation du secteur de l'information ne connaît pas non plus de frontières. Il y a un lien entre la polarisation et la montée de certains médias ou plateformes alternatives et de leaders d'opinion en ligne. Certains de ces nouveaux acteurs n'ont pas de scrupules à désinformer ou à attiser la colère du public pour attirer l'attention. Comme d'ailleurs les réseaux sociaux et leurs algorithmes. Et ceci nous enferme par ailleurs dans des chambres d'écho, car ce qu'on y lit renforce généralement nos opinions. Mathieu Lavigne n'est toutefois pas catastrophiste. Il a même déterminé des façons de mieux faire face à la polarisation. Il y a d'abord des attitudes à éviter, parce qu'elles ne font qu'envenimer la situation. C'est le cas de l'utilisation d'une rhétorique polarisante. De quoi parle-t-il exactement? Ça peut être notamment l'utilisation d'insultes ou de mots pour parler de politiciens ou de certains groupes de la population. Dans le cas de la COVID-19, on parlait par exemple des COVIDIOS ou des touristatas. Parmi ce qui doit être encouragé, certaines études montrent qu'une couverture médiatique moins conflictuelle, présentant aussi des exemples de relations amicales et respectueuses entre politiciens de différents partis, peut avoir un effet dépolarisant. Car, oui, il y a parfois certaines positions qui convergent, même si elles sont généralement éclipsées par les nombreux différends. L'éducation demeure une méthode de choix pour freiner la polarisation. Si le public est en mesure d'identifier plus facilement certains discours ou contenus médiatiques polarisants, il pourra plus facilement en limiter les effets. En toute fin d'entrevue, le chercheur offre un conseil d'une simplicité émouvante. Parlons-nous et écoutons-nous. Ce que la littérature montre, c'est que le fait de simplement se parler, s'écouter, porter attention aux préoccupations des autres peut aussi nous amener à combattre ces fausses croyances qu'on a par rapport aux autres groupes, dit-il, et à diminuer les différences qu'on perçoit entre nous et les autres. On aurait tout avantage à garder cette petite liste de solutions en tête, alors que se profile à l'horizon une campagne électorale fédérale qui s'annonce encore plus déchirante que les précédentes. C'était « Qu'est-ce qu'on attend pour se parler ?» un texte d'Alexandre Sirois, paru le 20 novembre 2024 dans La Presse.
Décroître pour mieux vivre, un texte de Maïka Sundarji, paru le 16 mars 2024 dans Le Devoir. Le monde tourne autour de l'idée que nous pouvons toujours croître, les entreprises, les nations, les économies, les individus. Le productivisme et le consumérisme liés à notre système économique ont dégradé l'habitabilité de notre planète pour cette sacro-sainte croissance sans pour autant faire disparaître les inégalités entre les humains. Nous devenons toujours plus des rouages de la grande machine à produire des marchandises. L'un des articles les plus lus de 2023 du célèbre magazine Nature portait sur un concept qui fait de plus en plus d'adeptes, la décroissance. Il s'agit de l'idée selon laquelle les pays à revenus élevés pourraient prospérer et réduire les inégalités tout en utilisant moins d'énergie et en générant moins de déchets. Les partisans de la décroissance croient que l'augmentation perpétuelle de la richesse pécuniaire ne mène pas nécessairement à plus de bien-être collectif. Et si on pouvait être plus heureux sans rechercher la croissance économique à tout prix? L'article de Nature, écrit par un collectif de chercheurs en économie écologique à la fin de 2022, soutient qu'il serait non seulement souhaitable, mais faisable de ralentir. Il faudrait d'abord réduire les secteurs de l'économie les plus destructeurs comme les combustibles fossiles, les jets privés ou la production massive de viande. Il faudrait aussi former de la main-d'œuvre durable dans des emplois verts, comme l'installation d'énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments ou la régénération des écosystèmes pour une transition des emplois d'un secteur à l'autre. Il ne suffirait pas de décroître l'économie, il faudrait aussi réduire le temps de travail en encourageant le travail à temps partiel ou la semaine de 4 jours, et abaisser l'âge de la retraite. En matière de solidarité internationale, il faudrait annuler les dettes injustes ou illégales pour alléger le fardeau fiscal des pays du Sud global. un gros programme. L'objectif n'est pas de mettre en récession nos économies, mais de sortir volontairement et collectivement de la course à la croissance économique pour tenter de bâtir des sociétés post-croissance qui seraient plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Pour Yves-Marie Abraham, qui mène des recherches sur ce thème à HEC Montréal, la feuille de route à suivre pour sortir de cette course folle tient en trois points. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Développement durable ou décroissance? Selon les objecteurs de croissance, les solutions qui visent simplement à réformer le modèle économique actuel comme le développement durable ou la croissance verte ne sont que des pansements sur une plaie béante. Jusqu'à ce jour, ces tentatives n'ont eu que des effets minimes sur le plan écologique ou sur celui des inégalités. La croissance, même faible, se traduit inexorablement par des dégradations environnementales. De plus, tous ne peuvent pas décroître également, surtout si on prend en compte la dette écologique des pays industrialisés envers les pays du sud global. Une dette pour avoir détruit la planète pour leur croissance. Le texte dans Nature argumente qu'on ne doit pas laisser les pays moins industrialisés dépendre des autres pour la technologie et l'énergie, mais leur permettre une croissance contrôlée. Mais ceux-ci ne devraient pas calquer le modèle productiviste des pays plus industrialisés au risque de détruire encore plus la planète. Ces idées qui paraissaient radicales il y a encore quelques années jouissent d'un regain d'intérêt à la suite de la pause forcée de la pandémie. Des institutions reconnues commencent à en faire la promotion, comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, ou la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Une étude récente réalisée dans 34 pays européens révélait qu'environ 61% de la population de ces pays était favorable à la post-croissance. Selon le sociologue états-unien Eric Olin Wright, une société de remplacement doit remplir trois critères. La désirabilité, mener à un changement social souhaitable, la viabilité, fonctionner autant en théorie qu'en pratique, et la faisabilité, être réalisable en fonction des pouvoirs en place. De toute évidence, il est désirable de ralentir un peu. Pour la viabilité, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il faudra au moins réduire notre dépendance aux ressources non renouvelables, taxer les grandes fortunes, réguler les entreprises polluantes, limiter le profit pour redistribuer aux travailleurs, et ainsi va le vent. Les auteurs de Nature réussissent tout de même à faire avancer le débat pour prouver la viabilité de la décroissance. Reste à en prouver la faisabilité, qui nécessitera de faire accepter les prémices de la décroissance aux forces politiques en place. Plus facile à dire qu'à faire. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'attendre le grand soir de la révolution pour amorcer cette décroissance. De nombreuses initiatives concrètes s'inscrivent dans cette perspective, que ce soit le mouvement des villes lentes, des monnaies locales, les communs ou la réduction du temps de travail. Y prendre part et les soutenir constitue déjà une manière de se mettre le cap vers un monde post-croissance. Reste aussi à imaginer le bout du chemin. À quoi pourraient ressembler des sociétés libérées du fardeau de la course à la croissance et désirables par tous et toutes? Il suffit de mettre au travail nos imaginations. C'était « Décroître pour mieux vivre », un texte de Maïka Sundarji, paru le 16 mars 2024 dans Le Devoir.
Le dépistage du cancer en 6 questions. Un texte commandité, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Le dépistage du cancer sauve des vies. quels sont les types de cancers qui sont dépistés? De quelle façon? À quel âge recommande-t-on de commencer les dépistages? Voici les réponses à 6 questions fréquentes sur le sujet. 1. Pourquoi passer des tests de dépistage du cancer? Les tests de dépistage aident à détecter certains types de cancers à un stade précoce, soit avant l'apparition de symptômes perceptibles. Cette détection précoce permet ainsi de soigner les tumeurs malignes à un stade moins avancé, ce qui augmente les chances de guérison et réduit les effets indésirables liés au traitement. Dans certains cas, le dépistage peut même prévenir l'apparition d'un cancer en révélant des changements cellulaires susceptibles de devenir cancéreux en l'absence de traitement. 2. Tous les types de cancers sont-ils dépistés? Non, les cancers ne sont pas encore tous dépistés. Pour qu'un dépistage systématique soit mis en place, un certain nombre de critères doivent être rassemblés. La maladie doit notamment être détectable à un stade auquel elle peut être soignée. Des traitements efficaces pour ce type de cancer doivent également être accessibles. De plus, la détection précoce doit présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Elle doit en outre permettre de diminuer la mortalité associée à la maladie. 3. Quels cancers font l'objet d'un dépistage systématique? Au Québec, il existe des programmes de dépistage du cancer pour les cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal. Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, PQDCS, concerne les femmes de 50 à 69 ans qui n'ont jamais été atteintes de la maladie. Le dépistage du cancer du col de l'utérus vise les femmes âgées entre 21 et 65 ans pour le test Papanicolaou ou test PAP et entre 25 et 65 ans pour le test du virus du papillome humain, VPH. Le dépistage du cancer colorectal s'adresse aux personnes, hommes et femmes, âgées de 50 à 74 ans, qui ne présentent aucun symptôme ou facteur de risque de la maladie. Cela dit, un ou une médecin peut recommander un test de dépistage plus tôt si une personne possède des antécédents familiaux de la maladie. Les tests de dépistage sont-ils précis à 100%? Aucun test de dépistage n'est fiable à 100%. Des erreurs peuvent parfois survenir. Le test peut, dans certains cas, se révéler positif, alors que les examens complémentaires effectués pour confirmer le diagnostic démontreront l'absence de lésions cancéreuses. Dans ce cas, ce résultat constitue un faux positif. Il peut également arriver que l'examen soit négatif, alors que la personne a réellement un cancer ou une lésion précancéreuse. Ce résultat est considéré comme un faux négatif. Cela dit, les avantages liés à effectuer des examens de dépistage sont réels, malgré les inconvénients possibles qu'ils peuvent engendrer. 5. Quelles formes peuvent prendre les tests de dépistage? Les tests de dépistage peuvent notamment prendre la forme d'une mammographie. Cet examen radiologique permet de déceler des cellules cancéreuses au sein. Les femmes concernées par le programme sont invitées à passer ce test de dépistage tous les 2 ans. Un frottis vaginal. Cette analyse microscopique d'un échantillon de cellules prélevées à la surface du col de l'utérus permet de détecter des cellules anormales ou des lésions précancéreuses dans le cas du test PAP ou encore de repérer la présence du virus du papillome humain dont l'infection cause la majorité des cancers du col utérin dans le cas du test VPH. Un test immunochimique de recherche de sang occulte, RSOC, PSI. Cette analyse en laboratoire d'un échantillon de sel permet de déceler un saignement indétectable à l'œil nu, souvent associé à la présence de polypes, qui peuvent être précurseurs de cancer ou d'un cancer colorectal à ses débuts. 6. Les tests de dépistage permettent-ils de poser un diagnostic? Non, les tests de dépistage ne servent pas à diagnostiquer un cancer. Ils peuvent seulement aider à déceler la maladie. Le diagnostic d'un cancer nécessite la réalisation de plusieurs examens. Même si un test de dépistage est positif, des examens plus précis, une biopsie, une tomodensitométrie ou une imagerie par résonance magnétique, entre autres, doivent être effectués pour confirmer que la personne est véritablement atteinte d'un cancer. C'était le dépistage du cancer en 6 questions. Un texte commandité, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.
Trop de vitamine D. Est-ce problématique? Un texte de Catherine Enfield, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. Lorsqu'on pense à la vitamine D, on pense spontanément au manque, à la carence. Après tout, près d'un Canadien sur trois n'a pas assez de vitamine D dans le sang. Mais à l'autre bout du spectre, il y a aussi des gens qui en ont trop. C'est le cas d'environ 4 % de la population canadienne, selon les plus récentes estimations de Santé Canada, 2016-2019. Le groupe d'âge le plus à risque? Les personnes de 60 ans et plus. Ces gens pourraient potentiellement avoir des effets indésirables sur différents plans. C'est important de les mentionner. Contrairement aux vitamines C et B, qui s'éliminent dans l'urine, la vitamine D est liposoluble. Elle peut s'accumuler dans les graisses de l'organisme. Quand on perd du poids ou juste avec la circulation du sang, cet excès de vitamine D peut être lâché dans le sang. C'est là qu'on se retrouve avec des problèmes, explique Isabelle Bilodeau, pharmacienne de la Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie pharmacienne à l'Institut national de santé publique du Québec. Trop peu de vitamine D peut être nocif pour la santé, mais trop de vitamine D aussi. C'est une courbe en U, comme beaucoup d'autres nutriments, résume May Farage, professeure à l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Les Canadiens doivent s'assurer d'en prendre les bonnes quantités. Trop de calcium. La vitamine D aide l'organisme à absorber le calcium, ce qui en fait une alliée majeure à la santé des os. Par contre, lorsqu'on prend trop de suppléments de vitamine D, on peut se retrouver avec trop de calcium dans le sang. Selon le taux de calcium disponible dans le sang, on peut avoir un continuum d'effets indésirables, explique la pharmacienne Isabelle Bilodeau. Les gens peuvent ressentir des nausées et des vomissements, de la constipation, une perte d'appétit, de la faiblesse, énumère-t-elle. Dans les cas les plus graves, on peut avoir des problématiques d'arythmie cardiaque, d'insuffisance rénale, des cristaux de calcium qui se forment au niveau des reins, poursuit Isabelle Bilodeau. Heureusement, les cas d'intoxication sont rares. Depuis le début de l'année 2024, le Centre antipoison du Québec a reçu 201 appels liés à la prise de vitamine D, la plupart concernaient de jeunes enfants. Du nombre, 5 ont été évalués comme pouvant potentiellement causer des toxicités, indique Isabelle Bilodeau. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même difficile de s'intoxiquer à la vitamine D, dit-elle. En 2018, des chercheurs du Pays de Galles ont répertorié 44 études à propos de cas d'intoxication à la vitamine D dans le monde. Effectivement, les doses quotidiennes associées à ces cas d'intoxication sont faramineuses. 50 000 unités internationales par jour UI, 80 000 UI par jour, même plus. Et il faut consommer ces doses pendant plusieurs jours pour en venir à dépasser notre seuil toxique, précise Isabelle Bilodeau. Les gens qui se sont intoxiqués avaient donc consommé des doses quotidiennes beaucoup plus élevées que celles recommandées par Santé Canada, 400 UI par jour à partir de 51 ans, ou par l'Association canadienne de dermatologie, 800 UI à 2000 UI par jour pour les adultes. Des médecins peuvent prescrire d'autres posologies de vitamine D pour certaines indications, ou encore une dose plus élevée, comme 10 000 UI, à prendre une fois par semaine, indique la pharmacienne Isabelle Bilodeau. Après l'âge de 9 ans, l'apport maximal tolérable par jour est de 4000 UI. Mais je ne verrai pas de bénéfice supplémentaire à l'utilisation d'une dose se situant entre 2000 UI et 4000 UI par jour comparativement à une dose plus faible, indique Isabelle Bilodeau. Comment des gens en viennent-ils à s'intoxiquer? Les chercheurs au Pays de Galles ont identifié différentes causes. Certaines personnes ont mal utilisé des produits en vente libre. D'autres ont été victimes d'une erreur d'ordonnance et d'autres encore ont consommé des produits mal contrôlés qui contenaient en réalité beaucoup plus de vitamine D qu'indiqué. Les suppléments, en général, peuvent contenir des niveaux plus élevés ou plus bas que ce que l'étiquette indique, parce qu'ils ne sont pas réglementés comme les médicaments, même s'ils devraient l'être, souligne la chercheuse Méfarage. Isabelle Bilodeau conseille d'acheter ces suppléments de vitamine D en pharmacie et non en ligne et de vérifier qu'ils détiennent un numéro de produit naturel, NPN. La présence de ce numéro sur l'emballage indique que Santé Canada a examiné l'innocuité et la qualité du produit et en a autorisé la commercialisation. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à votre pharmacien, conclut-elle. Quelles sont les recommandations de Santé Canada? De 2 à 50 ans, vous pouvez soit consommer des aliments contenant de la vitamine D tous les jours, soit prendre un supplément chaque jour contenant 10 microgrammes de vitamine D. 51 ans et plus, prenez un supplément chaque jour contenant 10 unités de vitamine D tout en continuant à consommer des aliments contenant de la vitamine D dans le cadre d'une alimentation saine. L'apport quotidien total recommandé est de 15 unités de vitamine D par jour de 1 an à 70 ans et de 20 unités après 70 ans. C'était « Trop de vitamine D, est-ce problématique? » Un texte de Catherine Enfield paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.